Te rendons grâce, Seigneur Esprit Saint, de venir sur nous ce soir, sur notre assemblée, sur chacun d'entre nous, dans notre cœur, pour que la parole de Jésus puisse pénétrer en nous. Que tu ouvres une brèche dans notre cœur, dans les murailles que nous avons mis, afin que le souffle divin, l'énergie divine, la lumière divine puisse pénétrer en nous et que le Seigneur puisse accomplir en nous son œuvre de salut et de guérison. Du livre de Ben Sira le Sage, au chapitre 27, à partir du verset 30. Rancune et colère, voilà des choses abominables où le pécheur est passé maître. Celui qui se venge éprouvera la vengeance du Seigneur. Celui-ci tiendra un compte rigoureux de ses péchés. Pardonne à ton prochain le tort qu'il t'a fait. Alors à ta prière, tes péchés seront remis. Si un homme nourrit de la colère contre un autre homme, comment peut-il demander à Dieu la guérison? S'il n'a pas de pitié pour un homme son semblable, comment peut-il supplier pour ses péchés à lui? Lui qui est un pauvre mortel, il garde rancune, qui donc lui pardonnera ses péchés? Pense à ton sort final et renonce à toute haine. Pense à ton déclin et à ta mort, et demeure fidèle au commandement. Pense au commandement et ne garde pas de rancune envers le prochain. Pense à l'alliance du Très-Haut et sois indulgent pour qui ne sait pas. » Alors certains l'auront peut-être remarqué, ce texte que je vous ai lu, c'est la première lecture des textes de dimanche dernier. Et j'avais été très frappé dans ce texte, c'est pour ça que je le reprends, par cette phrase que je vais méditer avec vous, mais aussi tout le texte. « Si un homme nourrit de la colère contre un autre homme, comment peut-il demander à Dieu la guérison ?» Autrement dit, Ben Sira le sage, donc comme son nom l'indique, c'est un sage, il a beaucoup médité. La différence entre le sage et le prophète dans la Bible, le prophète, il reçoit une inspiration subite et il dit ce que Dieu lui a dit de dire. Le sage, c'est quelqu'un qui médite. Et la parole de Dieu, il la reçoit dans la durée, à travers une méditation sur sa vie, sur le monde. Et à partir de là, il commence à percevoir la pensée et la parole de Dieu. Vous voyez, c'est un peu différent du prophète qui reçoit tout de suite une inspiration prophétique. Certains d'entre nous ont peut-être plus un charisme de sage, d'autres sont peut-être plus prophètes pour dire des choses. Donc nous demandons au Seigneur, nous désirons qu'il entende notre prière, et est-ce que nous-mêmes nous écoutons ce que le Seigneur nous demande? On a souvent l'impression que le Seigneur ne nous écoute pas, qu'il ne nous entend pas, mais est-ce que nous avons des oreilles et un cœur pour entendre ce que le Seigneur veut nous dire? Et vous savez tous comme moi qu'il y a plus de probabilités que le Seigneur nous écoute vraiment, que lui nous l'écoutions vraiment. Autrement dit, lui, le Seigneur, il a vraiment des oreilles, il nous entend, il n'a pas un cœur dur. Donc, si le Seigneur veut nous parler, c'est parce qu'il veut transformer notre cœur. Il veut nous aider à avancer. Parfois, on a peur de la parole du Seigneur parce qu'il va nous demander des choses qu'on ne pourra pas réaliser. Mais non, le Seigneur va nous demander des choses qu'on peut faire et il va nous aider à les faire pour avancer. Alors, dans cet extrait, le sage, il a médité sur la colère et sur la haine. Et il se dit, mais certainement lui-même a dû connaître la colère et la haine dans son cœur, et il s'est dit, mais comment le Seigneur peut-il entendre une personne qui a de la colère et de la haine dans son cœur? Autrement dit, dans son cœur, il n'y a pas d'amour pour s'ouvrir à l'amour de Dieu. Peut-être que cette personne n'arrive pas à sortir de sa colère et de sa haine, peut-être qu'elle la vit depuis longtemps. Je me rappelle un témoignage qui avait été donné ici à la prière des malades. C'est une personne qui avait divorcé. Elle avait de la haine et de la rancune pour son mari depuis 30 ans. Elle l'a nourri pendant 30 ans et elle n'arrivait pas à en sortir. Et 30 ans après, c'était aussi virulent. Probablement qu'il s'était passé des choses très dures entre eux, mais cette colère ne s'était pas épuisée avec le temps. Elle avait continué. Et à la prière des malades, là, il y a une parole qui a dit que le Seigneur venait donner à une personne la force de pardonner. Cette personne, à ce moment-là, elle a ressenti de l'amour dans son cœur et elle a senti que cette parole était pour elle. Et elle a prononcé un pardon pour la première fois de sa vie pour son mari, dont elle avait divorcé, pour qui elle avait une rancune depuis 30 ans. Bon. Et le lendemain, elle va à la chapelle des apparitions, à la rue du Bac, et elle participe à la messe. Et à un moment donné, vous savez que pour ceux qui participent à la messe, vous savez qu'à un moment donné, parfois, le prêtre vous dit de donner la paix à votre voisin avant la communion pour que notre cœur soit vraiment en paix. Bon, évidemment, notre voisin, en général, ne nous a rien fait, mais c'est une manière de faire la paix avec tout le monde. Donc, elle donne la paix à son voisin, à côté, puis elle se retourne derrière. Et qui est derrière? C'était son mari, dont elle avait divorcé il y a 30 ans. Voilà. Donc, le Seigneur lui dit que, ben voilà, tu as fait cet acte, je t'ai donné la force de le faire, tu l'as posé, et maintenant, vous pouvez au moins vous réconcilier. À défaut de revivre ensemble, il faut au moins se donner un pardon mutuel. Donc, le Seigneur attend de nous que nous sortions de nos colères, de nos haines, de nos rancunes, mais aussi, il faut lui demander son aide, parce que dans certaines, on est enfermé, elles sont plus fortes que nous. Parfois, notre rancune est plus forte que nous, et on n'arrive pas à en sortir. Si, au contraire, donc nous arrivons à poser des actes de pardon, parfois, vous avez vu, cette dame, elle a mis 30 ans à arriver à pardonner. Hein. Joseph et ses frères, dans la Bible, il y a eu une grosse blessure. Ses frères, ils ont fait jeter Joseph en prison. Ils l'ont vendu. Et ensuite, Joseph, à cause de ça, a été jeté en prison. Il a vécu la misère. Bon. Entre le moment où ça s'est passé et le moment où il y a le pardon, je crois qu'il s'est passé une vingtaine d'années. Parfois, il faut du temps pour arriver à pardonner, pour que le Seigneur trouve une porte par laquelle il va nous donner la force de pardonner. Mais à défaut de pouvoir y arriver aujourd'hui, il faut demander au Seigneur, « Seigneur, donne-moi la force de pardonner, même si pour moi c'est insurmontable par rapport à telle personne. J'ai tellement souffert que je n'arrive pas. Ben, donne-moi la force, Seigneur, ouvre une porte dans mon cœur. » Ça, ça lui fait plaisir. Et dans ce texte, le Seigneur dit aussi, pense à ton sort final, pense à ton déclin et à ta mort. Pense à ta mort. C'est pas penser, je dirais, aux heures qui précèdent ta mort, mais je dirais surtout pense à la minute qui succède à ta mort. C'est-à-dire quand tu seras après ta mort, qu'est-ce qui va se passer? Ton âme va quitter ton corps, et puis tu vas peut-être prendre une voie lumineuse, un tunnel, comme on le sait à travers l'expérience. Personnes qui font des expériences proches de la mort, peut-être un tunnel de lumière, mais à un moment donné, tu vas rencontrer Jésus, Dieu ou l'amour. Voilà. Et à ce moment-là, est-ce que tu seras en état de rentrer dans ce ciel d'amour? Est-ce que ton cœur sera vraiment plein d'amour? Ou du moins, est-ce que ton cœur sera prêt à supplier le Seigneur pour qu'il te remplisse d'amour? Est-ce que ton cœur sera plein de pardon? Bien sûr, on aura tous des péchés, et les péchés sont très lourds pour chacun d'entre nous. Mais le Seigneur dit, si tu pardonnes aux autres, moi je ne compte pas tes péchés, et on est gagnant. Je pense que les autres nous ont fait pèser un certain poids, mais nos péchés, eux, ils pèsent très 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 lourd. Donc on est gagnant dans cette histoire-là. Si on remet aux autres les fautes qu'ils ont fait contre nous, eh bien le Seigneur nous remet nos péchés, et nos péchés sont bien plus importants. Et puis aussi, le Seigneur nous invite, pour ceux qui le peuvent, à vivre le sacrement de réconciliation. Il y a des personnes dans cette église qui ont été guéries après avoir vécu le sacrement de réconciliation. Ils ont pu obtenir le pardon du Seigneur dans le sacrement. Voilà. Donc parfois on se demande, qu'est-ce que je dois faire pour que Dieu me guérisse? Alors, c'est pas de la magie, il n'y a rien d'automatique. Dieu, il nous guérit s'il estime que c'est bon pour nous. Parfois on a du mal à comprendre pourquoi il ne nous guérit pas. Peut-être qu'après notre mort, on comprendra. Bon. Mais en tout cas, si notre cœur et dans la rancune et la haine, il ne peut pas nous guérir. Si on ne guérit pas, ce n'est pas forcément que notre cœur est dans la rancune et la haine. Ça peut être tout simplement que Dieu nous demande de porter notre épreuve, notre croix. Mais n'empêche que si on est dans la rancune et la haine, là, il ne peut pas nous guérir. Parce qu'on est comme un blocos fermé à la grâce divine. Voilà, maintenant, je vais demander à Francis et à Corinne de venir pour nous donner leur témoignage. Alors, dans cette prière, il y a beaucoup de témoignages où ce sont des guérisons qui ont lieu souvent instantanément, ou dans les jours qui viennent, qui sont instantanés, la nuit qui suit ou le lendemain. Là, je vais vous donner un témoignage qui s'est fait plus dans la durée, mais vous verrez qu'on voit vraiment l'œuvre de Dieu très forte dans ce témoignage.
Bonsoir. Je m'appelle Francis, j'ai 64 ans, je suis marié, j'ai deux enfants, je suis chirurgien-dentiste, spécialisé en implantologie, basé en région parisienne et à la retraite depuis 2 ans. Le 23 juillet 2016, j'ai été hospitalisé pour 48 heures afin d'opérer 2 petits calculs dans les voies biliaires. Pendant cette intervention, le praticien effectue un geste malheureux et a fissuré mon pancréas, qui a subitement explosé, a libéré tout son contenu, qui est très agressif. J'ai été aussitôt transféré en urgence dans une unité de réanimation chirurgicale, dans un autre hôpital où je suis resté 3 mois en réanimation. L'équipe de réanimateurs a très rapidement posé le diagnostic. Il s'agissait d'une pancréatite aiguë avec des coulées nécrosantes. Ceci engageait mon pronostic vital car mon état était jugé très critique. De jour en jour, cet état se dégradait, tous mes organes vitaux étaient atteints par ce liquide purulent. J'étais maintenu en vie par toutes sortes de tuyaux. J'étais en état de septicémie foudroyante et l'équipe chirurgicale ne pouvait pas m'opérer. Ce n'est qu'au bout d'un mois qu'un chirurgien a décidé de prendre ce risque de m'opérer car j'étais de toute façon condamné. Il m'a alors demandé de faire mes adieux à mes enfants, à ma femme, mon épouse, dans le cas où je ne reviendrai pas du bloc. L'intervention était plus que risquée. Cette première intervention a duré 6 heures le 30 août. Et afin d'ôter une partie du muscle dorsal qui était nécrosé, nettoyer un maximum d'organes et enlever aussi une partie de mes organes urinaires. Puis ils m'ont passé en coma artificiel. 2 jours plus tard, j'ai subi une deuxième intervention chirurgicale qui a duré également 6 heures, dans laquelle ils ont retiré cette fois-ci le côlon vertical droit et posé une poche nécessaire à l'évacuation des selles que j'ai gardée, cette poche, pendant plus d'un an. J'ai durant cette épreuve toujours été entouré de mes proches, en particulier de mon épouse, de mes 2 enfants et de ma sœur. Cette dernière, qui demeure en Martinique, est venue à plusieurs reprises pour me soutenir. Et le jeudi 22 septembre 2016, il y a donc un jour, un an, aujourd'hui, jour pour jour, heure pour heure, elle est venue ici, dans cette église, avec son époux, pour assister à la prière des malades. Elle a été très surprise d'entendre, à ce moment-là, une personne qui décrivait exactement les symptômes qui correspondaient à mon état, et que j'étais hospitalisé et que je guérirais. Ma sœur a tout de suite fait le rapprochement avec moi, et dès le lendemain, réunie dans ma chambre pour une prière, elle m'a révélé que le Seigneur avait dit que je guérirais et a raconté tout ce qui s'était passé ici. À ce moment-là, nous nous sommes tous mis à pleurer. Durant toute la durée de mon hospitalisation, j'avais en permanence le chapelet de ma sœur autour de mon poignet et une croix que j'avais placée dans ma chambre en face de mon lit. Quand je suis rentré à la maison, finalement, j'ai vu que mon épouse avait installé dans notre chambre à coucher des images pieuses et une croix près du lit. Et elle m'a déclaré que chaque soir, quand elle rentrait seule à la maison, elle s'adressait à notre Seigneur, et c'est de cette façon qu'elle a pu tenir. Le 16 juin de cette année, soit près d'un an plus tard, à la suite d'une nouvelle intervention qui a duré 4 heures, on m'a finalement enlevé cette poche et remis mes intestins en continuité. Le dernier scanner, à ce moment-là, a montré que mon pancréas avait retrouvé non seulement une forme normale, une taille normale, mais également une fonctionnalité normale, et que j'étais définitivement guéri. Lors de ma dernière visite chez le chirurgien, il y a quelques jours, ce dernier m'a avoué, après avoir convoqué tous ses confrères et assistants, que mon cas de guérison était inexplicable, qu'il ne faisait pas partie de ses croyants, mais que dans mon cas, il était obligé d'avouer que j'ai été sauvé, non pas par lui, mais par quelqu'un d'autre. Je suis heureux d'être ici ce soir parmi vous pour rendre grâce au Seigneur et demander par l'Esprit Saint de nous guider.
Voilà, merci beaucoup Francis et Corinne. Et Corinne m'a dit aussi qu'à travers cette lourde épreuve, et pour elle ça a été vous imaginez pendant un an beaucoup de moments de grandes angoisses, eh bien, elle a beaucoup cheminé dans la foi. Elle a beaucoup avancé dans sa foi. Le Seigneur n'a pas voulu la maladie de son mari, mais à travers cela, eh bien, le Seigneur a permis qu'elle grandisse dans la foi. Elle s'est mise à prier beaucoup, beaucoup. Et finalement, ils ont obtenu du Seigneur cette guérison qu'aucun médecin n'osait espérer. Voilà, rendons grâce au Seigneur parce qu'il est puissant et nous pouvons vraiment lui faire confiance. Et nous allons ce soir continuer notre œuvre d'intercession. Donc je vous rappelle que nous allons prier pour nos frères et sœurs des Antilles, mais nous allons aussi prier pour toutes les intentions que vous êtes venus porter, soit vous-même, soit celles qui ont été déposées dans le panier, les intentions que vous portez dans votre cœur. Alors je rappelle, parce qu'il y a des personnes qui ne comprennent pas comment se font les paroles et qui pensent qu'elles sont préparées à l'avance, les paroles de connaissance ne sont pas préparées à l'avance. Le Seigneur nous donne, au moment de la prière, ce qu'il est en train de faire. Et puis ensuite, nous le disons, les personnes qui ont ces paroles, ce sont des personnes qui ont déjà exercé ce charisme depuis longtemps. Et il y a eu beaucoup, beaucoup de confirmations qui montrent qu'elles ont vraiment ce charisme. Voilà, donc mettons une grande confiance dans le Seigneur. Évidemment, tout le monde ne sera pas guéri, mais prions aussi les uns pour les autres. Ne priez pas que pour vous-même, priez aussi pour votre voisin, votre voisine. Formons vraiment ce soir une communauté de prière. Jésus va venir au milieu de nous. C'est Jésus dans le Saint-Sacrement. C'est Jésus réellement présent. Pendant la messe, le prêtre a consacré le pain. C'est devenu le corps du Christ en reprenant les paroles mêmes de Jésus qui dit « Ceci est mon corps ». Donc comme il y a 2000 ans, Jésus passait dans les foules pour guérir les personnes. Ce soir, il est présent. Et maintenant, tout dépend de notre foi. Quand Jésus ne rencontrait pas beaucoup de foi, il ne pouvait pas faire beaucoup de guérisons. Quand il rencontrait une grande foi, il pouvait faire beaucoup, beaucoup de guérisons. Et puis, il peut aussi consoler, donner la force dans nos épreuves. Amen.